Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Briser le tabou de l'inceste au plus haut niveau de l'État, c'est une première. Il faut mieux punir les auteurs. Les mots et la vidéo d'Emmanuel Macron hier sur Twitter, deux semaines après le livre de Camille Kouchner et les centaines de milliers de témoignages qui ont suivi. Le million, la barre est franchie, la campagne de vaccination carbure avec le reconfinement en épée de Damoclès. Dans l'actualité encore, la Belgique enfermée, interdiction de sortir du pays à partir de mercredi. Les habitants font avec, vous l'entendrez. De la BD pour retracer l'histoire encore cachée des années Salazar au Portugal. Et puis du foot avec l'OM qui s'enfonce, battu 3-1 hier à Monaco. Le hand ce soir, les bleus dans le mondial face au Portugal. Enfin, esprit sport en mode combat tout à l'heure. De la MMA au féminin, c'est à la fin du journal.
Et à 8 20, notre invité ce matin, ce sera Jacques Attali pour son Histoire des médias. Le livre vient de paraître chez Fayard.
France Inter. Vous ne serez plus jamais seul, nous ne laisserons aucun répit aux agresseurs. Sur son compte Twitter hier, le président de la République encourage les victimes d'inceste à parler et annonce un durcissement de la loi comme un allongement de la durée de prescription. Deux semaines après le livre de Camille Kouchner sur son beau-père, Olivier Duhamel, une semaine après la rivière de témoignages sur les réseaux, 80 000 tweets, hashtag MeTooInceste, Emmanuel Macron a donc lancé une série de mesures. Margot Steve.
Il faut adapter notre droit pour mieux protéger les victimes, dit d'abord le président, sans plus de précision. La mission est confiée au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et au secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet. Ils seront accompagnés de deux spécialistes, un juge pour enfants du tribunal de Bobigny et la présidente de l'association Docteur Bru, spécialisée dans l'accompagnement des victimes d'inceste. Le garde des Sceaux va également consulter d'autres associations. Elles seront reçues dès lundi au ministère. La consultation devra déboucher rapidement sur des propositions, dit Emmanuel Macron. Le président annonce également le remboursement des soins psychologiques pour les enfants victimes de violences sexuelles et la mise en place de rendez-vous à l'école, l'un en primaire, l'autre au collège, pour recueillir la parole des élèves s'ils sont victimes et pour faire de la prévention auprès des autres.
Éric Dupond-Moretti commencera à recevoir les associations dès demain lundi, des associations qui saluent le changement de discours, un tournant quand on sait que l'inceste n'est toujours pas une infraction à part entière dans le droit. Ce n'est donc que le début, rappelle Isabelle Aubry de l'Association internationale des victimes de l'inceste.
C'est vraiment très très bien de le dire, ça fait beaucoup de bien. Maintenant, il faut que ça se concrétise en actes, parce que les victimes, tous les jours, sont confrontées aux difficultés, tous les jours, elles recherchent un soignant. Et puis, il faut tous les jours mettre en place de la prévention. Aujourd'hui, la prévention est inexistante dans notre pays. Donc, comme il dit, il faut dépister, c'est essentiel. Il faut aussi dépister et prendre en charge les agresseurs avant qu'ils passent à l'acte. Il faut aussi mener des recherches scientifiques, parce qu'on n'en a pas dans notre pays. Il faut former les professionnels, ça c'est indispensable. Il y a un chantier colossal en fait, parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que l'inceste nous coûte beaucoup, beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup, beaucoup de souffrance humaine.
Isabelle Aubry avec Mathilde Dehimy. Pour rappel, on estime qu'un Français sur 10 serait victime d'inceste en France.
La France a passé hier le palier du million de personnes vaccinées.
Malgré les retards de livraison annoncés, malgré les débuts poussifs aussi, la campagne de vaccination a bondi. Objectif du million atteint, Solène Lehen, avec même une semaine d'avance sur le planning.
Dans toutes les régions de France, entre 1 et 3% des habitants ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, excepté dans les Outre-mer où les doses peinent à arriver du fait notamment de l'éloignement. La livraison se fait par avion militaire. Après des débuts chaotiques, la campagne a réellement débuté en début de semaine, avec une montée en puissance des vaccinations dans les EHPAD et surtout l'ouverture de la vaccination aux plus de 75 ans. Plus de 100 000 personnes ont reçu une dose chaque jour depuis lundi. Le gouvernement prévoit maintenant d'accélérer. Objectif 4 millions de Français vaccinés fin février. Il faut de toute façon accélérer, augmenter la cadence, car certains vont devoir recevoir la deuxième dose, tandis que des candidats à la vaccination vont continuer d'arriver tous les jours dans les centres pour recevoir la première. Pour autant, les livraisons de vaccins à la France restent limitées. La solution pour protéger plus de monde plus vite contre le virus pourrait être de décaler la deuxième injection, normalement prévue par les fabricants 3 semaines après la première. Elle a déjà été décalée à 4 semaines. La Haute Autorité de Santé recommande désormais d'aller jusqu'à 6 semaines.
On le sait, c'est la course contre le temps. temps qui passe, le reconfinement au-dessus de nos têtes. Une question de jour, croit savoir le journal du dimanche ce matin. Emmanuel Macron pourrait l'annoncer à la télévision dès mercredi à l'issue du Conseil de défense pour une mise en œuvre d'ici la fin de semaine prochaine avec limitation des sorties, fermeture totale ou bien partielle des commerces non essentiels. En revanche, les écoles, elles resteraient ouvertes comme en novembre. Il faut, dit le ministre de l'Éducation, assurer la continuité pédagogique. Côté chiffres, si le nombre de personnes hospitalisées diminue légèrement, la pression reste forte et le nombre de nouveaux cas, lui, ne cesse de grimper pour la première fois même depuis novembre jusqu'à 23 000 en 24 heures. Les projections de l'Institut Pasteur sont d'ailleurs très sombres. Une hausse exponentielle des infections à cause du variant britannique est à prévoir. Si le couvre-feu ne porte pas ses fruits, on n'attendra pas le mois de mars pour reconfiner, les mots du ministre Olivier Véran dans Le Parisien ce matin. Autre mesure de restriction depuis cette nuit, minuit, test PCR de moins de 72 heures, obligatoire pour tous ceux qui arrivent en France par bateau ou avion, y compris donc pour les voyageurs européens. Et le gouvernement réfléchirait carrément à suspendre certaines liaisons, selon la presse. Le Rio-Paris pourrait être interrompu, la France fermer sa porte au Brésil. Se préparer à passer les vacances de février sans dépasser les frontières, c'est déjà une réalité pour les Belges. À partir de mercredi, interdiction de sortir du pays pour des voyages non essentiels. Les habitants n'ont d'autre choix que de faire avec. Reportage dans les rues de Bruxelles, signé Johan Hauchstein.
Certains Belges vont donc revoir leur plan de vacances avec plus ou moins d'enthousiasme.
J'avais prévu des vacances isolées avec mon compagnon où je savais qu'on aurait quand même respecté les règles ailleurs dans un petit village tranquillou tous les deux. Et non, voilà. Ça commence à bien faire. Moi, je commence à en avoir un peu marre.
Je devais aller faire du ski de randonnée dans les Alpes. Je pense pas que je vais contaminer plus de personnes dans les Alpes qu'ici en restant à Bruxelles et en allant faire du shopping dans les magasins de vêtements. Mais voilà, c'est la règle et je vais pas aller faire du ski et je ferai du ski une autre fois. C'est pas un grand problème dans la vie. Je pense qu'il y a d'autres problèmes plus importants.
Non, je vais aller au Maroc et bon, bah c'est fermé donc je peux pas. Ça m'énerve parce que je voulais vraiment famille. Mais en même temps, je dis c'est pour le bien avec le corona parce que je vais en attraper le corona.
D'autres, en revanche, comprennent tout à fait les mesures annoncées par le gouvernement belge.
Qu'il faut le faire. Parce qu'il faut que ça arrête cette connerie et des amendes de Dieu le tonnerre pour ceux qui veulent pas.
Ça fait des mois qu'ils auraient dit interdit cela. Je suis de Barcelone, mais j'habite à Bruxelles et ça fait 12 mois que je n'ai pas été à Barcelone. Je trouve que tous ces gens qui voyagent à droite et à gauche, c'est vraiment très insolidaire et très inconscient.
Tous se réjouissent en tout cas de l'ouverture des salons de coiffure envisagés pour la mi-février. Johanna Hauchstein, France Inter, à Bruxelles.
Des consignes sanitaires pas toujours acceptées. Des milliers de personnes ont manifesté hier dans le centre de Madrid, la plupart sans masque. Et puis manifestation aussi à Rennes, hier après-midi, en soutien aux organisateurs de la rave party du 31 décembre à Lyon. Violence et interpellation dans le centre. En attendant, la pression de nos voisins européens risque bien de compter dans la décision de reconfiner. 50 000 morts en Allemagne, 1 millier par jour au Royaume-Uni. Et parmi les pays touchés par le variant anglais, le Portugal, 3 000 morts depuis début janvier, une explosion des cas, 30 000 en un mois, c'est simple, le pays enregistre cette semaine le plus grand nombre de cas au monde en proportion de sa population.
L'Élysée a contacté la maman de Youri hier.
Ce collégien de 15 ans sur lequel une dizaine de jeunes se sont acharnés la semaine dernière dans le quartier Beaugrenelle à Paris. Images de vidéosurveillance insoutenables. Le jeune homme est plongé depuis dans le coma artificiel. Son état serait en train de s'améliorer. Dans ce quartier du 15e arrondissement, les habitants, eux, sont encore sous le choc. C'est un reportage d'Adrien Sarrière.
En ce week-end pluvieux de shopping, la dalle Beaugrenelle, située un peu à l'écart de la grande rue commerçante, paraît bien calme. Mais pour les quelques passants, impossible de rater les innombrables affichettes placardées par la famille de Youri à la recherche de témoins de l'agression.
On a été ultra choqués, enfin, c'est un gamin qui a 15 ans.
Abominable, c'est absolument abominable.
Jean-Philippe et Nikaya habitent une des tours récentes qui surplombe la dalle.
Quand j'ai vu les vidéos, j'ai reconnu à la dalle en fait que c'était ici. Je me suis dit, mais c'est dingue quoi.
Dans le voisinage, l'émotion est forte, d'autant qu'on ne s'attendait pas à un tel déferlement de violence.
Depuis 2 ans et surtout depuis le confinement, il y a des bandes qui ont commencé à traîner alors qu'ils sont vraiment, c'est des gamins jeunes, 12-13 ans. Il chahute un peu, mais honnêtement, ça va pas plus loin que ça.
Il n'y a pas du tout ce sentiment-là qu'on a où on se dit on va se faire agresser. Ils sont en bande, ils sont entre eux, ils se chahutent entre eux. Il y a jamais, enfin, on ne m'a jamais sifflé, on m'a jamais mal regardé, on m'a jamais abordé. Enfin, voilà, c'est des petits jeunes qui traînassent. On n'aime pas trop ça, mais c'est, voilà, il n'y a pas ce sentiment-là de danger total.
Le couple a quand même déjà appelé la police un soir pour une petite bagarre. Et selon eux, les plaintes de voisins se sont multipliées dernièrement. Depuis l'agression de Youri, les patrouilles se sont vraisemblablement renforcées. Samedi après-midi, une quinzaine de policiers arpentaient la dalle Beaugrenelle.
Et une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. En bref, à l'étranger, les États-Unis et cette première discussion au téléphone cette nuit entre le nouveau président et le premier ministre britannique, Boris Johnson. Il a été question d'approfondir leur alliance plus que nécessaire pour le Royaume-Uni après le Brexit. Et puis Trump qui aura vraiment tout tenté hein, jusqu'au dernier moment. On apprend dans le Wall Street Journal qu'il aurait fait pression dans les tout derniers jours de son mandat sur l'attorney général, l'équivalent du ministre de la Justice, pour invalider l'élection de Joe Biden. On connaît la suite. Enfin, en ce jour d'élection présidentielle au Portugal, retour sur une face encore assez cachée, les années Salazar, de 1928 à 1970, une période que le dessinateur Nicolas Barral avait envie de raconter, sur un air de fado, ça s'appelle, BD aux éditions d'Argot, l'histoire d'un médecin rattrapé par la dictature, Jacqueline Pétrose.
En protégeant un enfant de la colère des policiers en cet été 1968, Fernando change le cours de sa vie. Face à Anna, la sœur de Joao, militante communiste, le médecin rattrapé par son passé sent que le moment de l'indécision est révolu. Toutes ces dernières années, il a composé avec ce régime oppresseur, comme beaucoup. Nicolas Barral.
Comment un individu lambda se dépêtre d'un régime dictatorial? Comment on est un héros ou on n'est pas? Et si on n'est pas un héros, est-ce qu'on est un salaud? Enfin voilà, c'était une problématique intéressante. Ce qui va le conduire à l'engagement, c'est son humanité. Et donc, par une espèce de pied de nez du destin, une seconde chance va être offerte à mon personnage de prendre la décision ou pas de s'engager.
Un frère policier, un ami poète, une jeunesse engagée, Fernando, pris entre plusieurs réalités, fermait les yeux. Nicolas Barral, sans juger, nous pose aussi des questions.
Le salazarisme s'est mis en place sur un élan populiste, sur des idées conspirationnistes, une dénonciation de l'élite. C'est un refrain qu'on entend ces temps-ci. C'était pour moi finalement une manière de montrer un peu en grandeur nature ce qu'est un régime répressif, autoritaire.
Les tondous des couchers de soleil sur la mer et de la lumière de Lisbonne ne masquent pas la violence de la dictature. Nicolas Barral, avec intelligence, nous parle d'amour, de politique et de courage.
Voilà, sur un air de fado de Nicolas Barral, et c'est aux éditions d'Argot.
Et sur un autre rythme, 8h12, c'est l'heure des sports.
Le foot, la Ligue 1 et Marseille en brasse coulée. Troisième défaite d'affilée, 3-1 cette fois à Monaco. Hier, ce soir, le derby Saint-Étienne-Lyon à 21h. Les Bleus, invaincus au Mondial de Hand en Égypte. Jusqu'ici, tout va bien, comme on dit. Sauf que la voie n'est pas toute tracée vers les quarts de finale. Car il va falloir battre le surprenant Portugal. Prudent donc le pivot de l'équipe de France, Luka Karabatic.
Pour nous, le travail n'est pas terminé. Je pense qu'on a tous conscience de ce qui reste à faire. Et même de par notre parcours depuis ce début de Mondial, on est à chaque fois dans l'adversité, dans la difficulté. Donc je pense que rien que ça, déjà, ça nous pousse à être sur nos gardes. Et on a vu plein de scénarios un peu incroyables. Ça peut aller très vite au niveau international. Et surtout face à une équipe comme le Portugal, il ne faut faire aucune considération de points ou de choses comme ça. Pour nous, il faut rentrer dans ce match en voulant le gagner et en pensant juste à ça.
France-Portugal au Mondial de Hand ce soir, coup d'envoi 20h30. Elles aussi, elles se battent, mais à main nue, en cette journée internationale du sport féminin. Gros plan dans Esprit Sport ce matin sur la Française qui monte en MMA, arts martiaux mixtes. Laetitia Bernard, bonjour.
Bonjour.
Cette Française s'appelle Manon Fiorot et elle a remporté cette semaine son premier combat au sein de l'Ultimate Fighting Championship. Un peu comme si elle jouait en NBA ou qu'elle faisait un grand chelem, quoi.
Bah oui, c'est en fait la ligue la plus prestigieuse, hein, de MMA. Et Manon Fiorot, elle vit un rêve. Elle est seulement la deuxième Française de l'histoire à l'intégrer, avec des débuts fracassants, sans mauvais jeu de mots, puisqu'elle s'est imposée pour donc son premier combat par TKO, KO technique, sur décision de l'arbitre, quand l'adversaire n'est plus en capacité, en état de réagir. Le MMA, on le rappelle, est un sport de combat mêlant plusieurs techniques extrêmement populaires, mais il n'est légal en France que depuis un an, car jugé trop violent par certains. Une notion que Manon Fiorot relativisait il y a quelques mois sur France 3.
J'ai pratiqué plusieurs sports de combat. Par exemple, si on peut comparer avec la boxe anglaise, c'est tout aussi violent. Là, on prend 90% des coups dans la tête, alors qu'en MMA, ça va au sol, ça va debout. Enfin, moi, déjà, tous mes combats, je suis ressortie, j'ai pas une marque sur le visage. Donc non, après c'est vraiment, je pense, le fait de ne pas connaître la discipline.
On dit parfois que dans ce sport, tous les coups sont permis, mais il y a désormais des règles. Une trentaine de coups, hein, sont interdits. Par exemple, on n'a pas le droit de mordre, de frapper aux parties génitales, pas de coups dans la nuque, ni dans la colonne vertébrale, bien sûr.
Alors, encore heureux.
Voilà, mais bien sûr, bon, après, sont acceptées quand même les frappes avec les mains, les jambes, les genoux, les coudes, les projections au sol, les techniques de soumission. Ça laisse évidemment pas mal d'options. Mais bon, sérieusement, les combats sont encadrés, divisés divisée en rounds, minutés, et il y a aussi des catégories de poids, par exemple.
Ben Manon Fiorot, elle est poids mouche.
Oui, alors par contre, son surnom, c'est The Beast, la brute. La niçoise de 30 ans a un parcours sportif accompli. Elle a commencé par le karaté à 7 ans. Elle a fait partie de l'équipe de France, d'ailleurs. On l'a aussi vue en compétition de haut niveau en snowboard avant de se lancer dans les arts martiaux mixtes, donc il y a environ 5 ans. Son objectif maintenant, c'est d'intégrer le top 10 de l'Ultimate Fighting Championship et donc forcément de gagner de nouveaux combats.
Une mouche redoutable. Donc merci Laetitia Bernard. Et pour être tout à fait complet, eh bien chez les hommes, Dustin Poirier, l'Américain, a battu la superstar Conor McGregor, l'Irlandais, cette nuit en UFC.
Ultimate Fighting Championship dans le journal d'Hélène Roussel avec Laetitia Bernard. Merci. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Eh bien, c'est une météo partagée entre nord et sud, hein, Jean-Michel Golinski.
Une ambiance très contrastée en début de journée avec un ciel clair dans la moitié nord du pays, des températures de 0 à moins 5 degrés, des valeurs plus douces sur les régions méridionales au lever du jour, mais avec de la pluie du sud-ouest à la Provence et sur la Corse et de la neige en montagne. Tandis qu'une nouvelle perturbation fait son entrée rapide par l'océan, elle va donner ce matin un temps pluvieux sur une large moitié ouest du pays et vraisemblablement de la neige sur les collines normandes. À la mi-journée, on va trouver cet axe neigeux avec une couche de 3 à 5 cm sur le centre, la région parisienne et les Hauts-de-France, et ce soir du Grand Est au Dauphiné. Dans la moitié sud, maintien d'un temps maussade, sauf du golfe du Lion à la Provence, bien dégagé par un vent turbulent. La Corse sera copieusement arrosé et il va neiger sur l'ensemble des massifs à partir de 200 mètres des Vosges aux Alpes, 500 mètres sur le massif central et 1000 mètres sur la montagne Corse et les Pyrénées.
Jean-Michel Golinski de Météo France.